Chapitre 14. Duras, mécontent des renseignements insuffisants obtenus à Paris, partit pour l'Italie et se mit en rapport avec la famille piémontaise dans laquelle Rudal avait passé quelques mois. Homme aimable et intelligent, lui dit-on, il a quitté sa place pour donner des leçons en ville. Nous croyons que sa raison d'agir ainsi était son affection pour une jeune ouvrière qu'il a, paraît-il, épousée. Épousée ? S'écria Séverin. On le dit, mais c'est à contrôler. Son départ nous ayant froissés, nous avons perdu de vue M. Rudal. Séverin posa quelques questions sur la façon dont il pourrait s'y prendre pour découvrir l'ouvrière, et des indications précises facilitèrent ses recherches. La femme que Laurent avait assez aimée pour l'épouser était jeune, jolie et parfaitement honorable. Des travaux de broderie l'aidaient à vivre, elle et son enfant, en attendant le retour de son mari, dont elle ne se plaignait pas, supposant qu'il était parti momentanément à la recherche d'une position meilleure. Il lui envoyait régulièrement un peu d'argent, aussi ne se croyait-elle pas abandonnée, bien que l'absence prolongée de Rudal lui fît verser bien des larmes. Duras se garda de la détromper et la quitta en l'assurant que son mari, auquel il allait porter les nouvelles de sa femme, viendrait prochainement près d'elle. Il repartit précipitamment pour la Vendée et arriva à la Durbetière de grand matin, 4 jours après le départ de Brigitte. Trop préoccupé pour remarquer l'air embarrassé du domestique qui était venu le chercher à la gare, il se contenta de lui dire « Le plus vite possible, Louis, tout va bien chez moi ?»« Oui, monsieur, répondit le cocher, qui fit le court trajet de la station à la Durbetière dans une perplexité dont il devait ensuite raconter toutes les phases à ses camarades. Duras donna l'ordre de seller un cheval et monta chez lui, accompagné de son vieux valet de chambre, qui donnait les signes non équivoques d'un grand trouble. « Où allez-vous, monsieur ? » dit-il à Séverin. « À Noirpin, au plus vite. »« Monsieur sait ? » ?»« Quoi ? » ?»« Mademoiselle Déponet ? » ?»« Lui est-il arrivé un malheur ?» s'écria Duras. « Oui et non, je pense. Mais je ne sais comment dire à monsieur... » « Parle, dit Séverin, du ton qui n'admettait jamais de réplique. Monsieur n'est pas sans savoir l'affection de... Enfin, voilà, mademoiselle Déponet est partie pour l'Angleterre avec monsieur Rudal. Il paraît qu'elle peut s'y marier sans le consentement de son père. » Séverin devint si pâle que son vieux valet, qu'il adorait, en fut tout tremblant et déclara plus tard n'avoir jamais vu pareille émotion sur visage d'homme. « Monsieur, balbutia-t-il désolé, je vous demande pardon de vous avoir dit ainsi la nouvelle sans précaution, mais c'est vous... » Duras ne l'écoutait plus. Il se précipita dans la cour, se mit en selle et partit à bride abattue. Les domestiques de Noirpin n'eurent pas le temps de l'annoncer. Il entra sans attendre chez Monsieur Déponet. Le vieillard était déjà levé. Assis tristement devant un livre qu'il ne lisait pas, son attitude indiquait de l'affaissement et Séverin, qui arrivait avec l'intention de s'emporter, car il lui attribuait toute la responsabilité de l'événement, se contint momentanément. « Ah, c'est vous enfin !» lui dit M. Déponet avec un plaisir évident. « Vous avez appris ?»« Oui, où est-elle ?»« À Londres, dans un couvent, en attendant son mariage, à moins qu'il n'ait déjà eu lieu. » Elle espérait se marier le samedi, mais c'eût été bien prompt, ce me semble. « Mariée ?» répéta Séverin, d'un ton dont la singularité échappa à M. Déponet. « Elle est partie parce que j'avais refusé mon consentement. Mais ce refus n'était-il pas raisonnable ? Pouvais-je agir autrement ? Et pouvais-je me douter que ma fille était si ardente ? Et lui, il vous avait adressé une demande ? Mais oui, seulement en des termes qui ne m'avaient pas paru bien pressants. Je ne les croyais pas aussi épris l'un de l'autre. La pauvre Brigitte s'est crue persécutée. « Je crois comprendre à présent toute la manœuvre de ce scélérat !» s'écria Séverin. « Oh, ce n'est point un scélérat, mais un amoureux trop hardi !» Calmé par la réflexion, M. Déponet pensait désormais que, son devoir ayant été rempli, sa fille était seule responsable d'un mariage misérable, et qu'il devait profiter du fait accompli. Sa sympathie pour la personne et le savoir de M. Rudal s'était réveillée et il commençait à envisager de sang-froid le retour de Brigitte. Durand le regardait sans mot dire, avec pitié et colère. « J'ai bien pensé au coup que vous allez recevoir, mon pauvre ami, » reprit M. Desponnet, « et je comprends. » « Il ne s'agit pas de moi, » interrompit sèchement Durand. « Écoutez bien, cet homme est marié depuis 3 ans. »«
Est-ce que vous devenez fou ?» répliqua M. Desponnet d'un air effrayé.
Plût à Dieu, je souffrirai moins. Votre fille est partie avec un homme marié qui l'a trompée, qui s'est joué d'elle. J'arrive du Piémont où j'ai vu la femme et l'enfant qu'il a presque abandonnée. » Il lui conta rapidement ses doutes et ses inquiétudes, sa résolution d'aller chercher lui-même des renseignements précis sur Rudal. « Je pressentais un homme douteux, » ajouta-t-il, « mais je n'aurais jamais cru à une semblable découverte. »«
Vous doutiez de lui et vous ne m'avez pas prévenu ?»«
Aurais-je été écouté ?» répondit froidement Durand. « D'ailleurs, je n'avais guère le droit de parler sans certitude, et c'est pour acquérir cette certitude que je suis parti. Malheureusement, j'arrive trop tard. »
Et qui me dit que Brigitte n'était pas de connivence avec lui ? Continua M. Desponnet en s'abandonnant soudain à une colère irraisonnée.
Elle savait tout, j'en suis sûr. Est-il possible que ce visage candide cache tant de perversité ?
À quoi pensez-vous ? S'écria Durand, stupéfait du cours que prenaient les idées de M. Desponnet.
Elle a été affreusement et habilement trompée.
Trompé, qu'en savez-vous? C'est moi qui suis le jouet des deux.
Il se prit la tête à deux mains en répétant « Elle le savait, elle s'est perdue volontairement. » Séverin, profondément angoissé, marcha quelque temps de long en large avant de répondre « Cela ne peut pas être, vous le savez bien. Vous eût-elle parlé avec tant de précision de son mariage? Pourquoi vous égarez-vous dans le faux ? Quand elle a connu la vérité, elle s'est enfuie loin du misérable, c'est évident. Les choses se sont ainsi passées. Dieu, où est-elle, seule, sans appui, dans ce grand Londres ?
Elle est avec lui, répéta M. Desponnet en gémissant. Sans cela, elle m'eût écrit, envoyé un télégramme, que sais-je ?
Son silence s'expliquera, répondit Séverin d'une voix altérée. « Mais il n'y a pas à douter d'elle, et je ne comprends pas que ce soit son père qui en doute. »«
Je ne suis pas aussi inepte qu'on veut bien le croire. Comment ne pas douter d'une fille déjà assez coupable pour s'enfuir de la maison paternelle ?»«
Coupable ?» s'écria Durand en éclatant. « Qui donc est coupable si ce n'est vous-même ? Qu'était-ce donc pour Brigitte que cette maison paternelle ? Qui donc abandonnait cette pauvre enfant à elle-même ? Qui donc la sevrait entièrement d'amis et de distractions de son âge ? Qui donc, enfin, la mise en contact journalier avec un homme jeune et entreprenant ? Qui, si ce n'est vous ? Vous devriez déjà vous préparer pour courir à sa recherche, à son secours, et votre seule idée est de l'accabler ?
M. Desponnet fut complètement étourdi par cette véhémente apostrophe.
« Si j'ai eu des torts, dit-il en hésitant, j'en suis trop puni pour que je puisse agir ou pardonner.
Laissez-vous vous-même et ne pensez qu'à elle. Ah, je commence à croire qu'elle voyait juste, vous ne l'aimez pas.
Pauvre chère Brigitte, que cette pensée de votre indifférence faisait tant souffrir.
Ma fille croyait que je ne l'aimais pas, mais pourquoi ? C'est incompréhensible. Ne la laissais-je pas entièrement libre ? N'était-elle ?
« Nous ne sommes plus dans la question, » interrompit Durand avec impatience. « Il ne s'agit pas de discuter, mais d'agir. Qu'avez-vous répondu à votre fille ?»«
Je lui ai dit la vérité. Ma réponse était dure, j'en conviens. »
« Voici l'explication de son silence, » s'écria Séverin avec joie. « Elle est fière, et si votre lettre était blessante, vous avez achevé de rompre les liens si peu affectueux, par votre faute, qui existaient entre vous. »
« Toujours ma faute, » répondit M. Desponnet avec un nouvel emportement.
« Gardez votre idée, je garde la mienne, et refuse de revoir jamais une fille qui a déshonoré sa vie et la mienne. »«
Vous ne la reverrez jamais, jamais, dites-vous, et vous persistez à l'injurier ? Quel père êtes-vous donc ? On n'a jamais le droit d'abandonner un être humain Faut-il vous le rappeler quand il s'agit de votre unique enfant ? Cet enfant, je l'aime. Pas une minute, je ne mets en doute son honneur, et je pars aujourd'hui même à sa recherche pour la couvrir de mon honorabilité, pour lui offrir dans cette terrible épreuve mon nom et un amour auquel elle répondra un jour ou l'autre. « Durat ! » s'écria M. Desponnets avec la plus grande émotion. Il tendit les mains à Séverin et l'étreinte des deux hommes fut significative. « Vous valez mieux que moi, vous valez 100 fois mieux !» répéta plusieurs fois le vieillard d'une voix entrecoupée. Durat, maître de la situation, attendit que cette émotion fût calmée. Puis, impatient d'agir, il reprit « À présent, concertons-nous pour sauver sa réputation. »« Que raconter ?»« La vérité, » répondit vivement Séverin, « la vérité dans ses grandes lignes. La voie droite est toujours la meilleure. » Nous n'avons rien à dissimuler, si ce n'est certains détails. Je ne vois pas comment nous pouvons nous en tirer, répliqua M. Desponnets, complètement affaissé. Rien n'est plus simple. Vous direz hautement, et j'en ferai autant, ce que nous avons appris sur Udal. Nous ajouterons que votre fille attend, dans le couvent où elle vous a dit être descendue en arrivant à Londres, qu'on vienne l'y chercher. Je me charge du reste et personne, je vous en réponds, ne bronchera devant moi. La croyez-vous vraiment dans un couvent ? Mais non, évidemment. Elle aura été trompée sur ce point comme sur les autres et se sera réfugiée. Ou, partez pour Paris et m'y attendez. Non, répondit nettement M. Desponnets. Comment non ? Je ne me sens pas en état de revoir ma fille si tôt. Je me connais et n'aurai que des reproches très vifs à lui adresser. Du reste, je doute qu'après ma lettre, où je la traitais sévèrement, elle ait le désir de revenir ici. Sa position serait pénible et fausse. Demandez à Madame Taillandry d'agir pour moi et de l'accueillir. Soit, dit Duras en le regardant avec un mépris non dissimulé. Je n'ai pas le temps de discuter et de vaincre votre obstination. Il est 8 heures. À 10, je serai aux petites Buardières, et à midi, je prendrai l'express. » Il repartit en hâte et courut à la Durbetière, où il mit son vieux valet de chambre au courant des nouvelles. Pendant qu'on attelait une voiture légère, il eut le temps d'écouter les réflexions du brave homme. « Monsieur me croira s'il veut, mais je n'ai jamais eu confiance dans la figure de cet individu-là. Pauvre demoiselle, quelle découverte pour elle !» Monsieur sait qu'elle est dans un couvent ? Elle a écrit à son père qu'elle descendait là en attendant son mariage. Quand le misérable s'est démasqué, elle y est certainement restée. Il aura d'abord conduit ailleurs, je crois bien. C'est possible, répondit Durat en affectant un grand calme. Mais après leur explication, elle se sera réfugiée dans le couvent dont elle parle. Et son père part pour la chercher ? Durat réprima un geste de colère. Non, il est encore trop irrité. Il devrait surtout s'irriter contre lui-même, grommela Pierre. C'est bien l'avis de tout le monde que le départ de Mademoiselle Brigitte vient de sa sottise. Je ne voudrais pas manquer de respect à un ami de monsieur, mais je ne puis pas retirer le mot sottise. Est-ce qu'on ne voyait pas clair dans le pays ? Et cette demoiselle, toujours seule, avec un beau moineau comme celui-là, ne devait-elle pas se brûler au feu, comme disaient les plus aveugles ? Mais qui donc ira la chercher ? Madame Taillandry, je partirai avec elle pour lui éviter les petits ennuis du voyage. Ah oui, c'est une bonne dame, malgré les choses qu'elle dit à la barbe et au nez des gens. Lorsque Durat entra aux petites Buardières, Madame Taillandry était dans sa cour. Entourée de 300 volailles, elle distribuait du grain au milieu d'un bruit assourdissant. « Vous, » dit-elle en se débarrassant de son tablier et de son panier, « je vois à votre visage que vous savez tout. J'ai pleuré, oui, en vérité, pensant à la secousse que vous alliez avoir. » « Venez, » lui dit Séverin, « c'est plus grave encore que vous ne le supposez. » Elle le fit promptement entrer dans la petite salle et s'écria « Qu'entendez-vous par grave ?» Brigitte est partie avec un homme marié. Elle l'examina d'un air inquiet avant de répondre Êtes-vous fou? Est-ce le chagrin ? » Même réflexion que M. Desponnet. Le chagrin m'a toujours rendu lucide et clairvoyant, mais vous-même, continua-t-il avec amertume, refusiez de me croire. » Elle écouta le récit des événements d'un air attentif auquel se mêlait une perplexité qui irritait Duras. « La malheureuse, et dire que rien ne serait arrivé sans l'imbécilité de mon cousin. » Il n'y a plus à revenir sur les faits. Maintenant, il faut la sauver. Elle a fui Rudal, mais où est-elle ? Elle l'a fui, à moins que son cœur ne l'ait trahi, murmura Madame Taillanderie. Il est donc écrit que moi seule la connais bien, répondit Durand avec colère. Que moi seule, dans cette épreuve, n'aurais pas eu pour elle l'insulte du doute. J'ai tort, dit-elle vivement, mais ce sera quand même, hélas, une vie perdue. Ce sera une vie sauvée si elle le veut, dit-il d'un ton ferme. Mademoiselle Desponnet entrera avec mon nom à la Durbetière quand elle le jugera bon. Je sais que le mépris aura tué l'amour qu'elle croyait avoir pour cet homme. Madame Taillanderie resta un long moment à le contempler sans mot dire. Elle le savait fier, chatouilleux sur le point d'honneur, intransigeant quand il s'agissait de réputation féminine, et il décidait, sans hésiter, d'épouser Brigitte dans une position désormais équivoque. Il jetait de côté sa fierté légitime pour penser avant tout à celle qu'il aimait et se pencher vers elle, prouvant ainsi qu'un sentiment grand ou profond relègue au second plan les meilleures qualités et emporte l'homme dans un mouvement supérieur aux principes habituels. La bonté va plus loin que la justice, une passion tendre et forte comme celle de Durand va plus loin que les sentiments qui gouvernent la vie de chaque jour. Madame Taillanderie s'approcha de lui et lui frappant plusieurs fois sur l'épaule, geste qui était chez elle l'indice d'une grande émotion, lui dit seulement « C'est bien !» Mais elle eut quelque peine à se dominer, tant l'amour de Séverin la remuait jusqu'au fond de l'âme. « Avez-vous besoin de moi ? » demanda-t-elle enfin. « Oui, il faut que vous alliez à Paris et m'y attendiez pendant mes recherches, car vous ne pouvez pas, à votre âge, aller jusqu'à Londres. » « Et son père ?»« Il ne veut pas partir. J'ai vu que j'aurais à lutter contre l'obstination et le temps pressé. »« Mais Brigitte écrira. Comment n'a-t-elle pas déjà envoyé un télégramme ?» Elle ne pouvait pas s'expliquer par télégraphe. Ensuite, qu'est-elle devenue après l'affreuse découverte ? Elle peut être malade. La secousse a dû être horrible. Enfin, vous savez sur quel ton son père lui a écrit ? Il a fait une allusion devant moi. Eh bien, avec les malentendus qui sont entre eux, il aura complété le mal. Dans ces conditions, soyez certaine qu'elle ne lui écrira pas. Mais à moi, c'est mon espoir. Eh bien, alors, pourquoi ne pas attendre quelques jours au lieu d'aller à l'aventure ? Attendre ? S'écria-t-il irrité. Attendre ? Est-ce possible ? Et si elle n'écrit pas, retenue par un sentiment bien facile à comprendre, si elle est malade, comme je le disais tout à l'heure, où la trouver ? Je n'en sais rien. Si elle a vraiment l'adresse d'un couvent et qu'elle s'y soit réfugiée, il sera facile de la découvrir. Sinon, j'aviserai. D'ailleurs, si notre espoir se réalise, c'est-à-dire si elle vous écrit, vous me télégraphierez. Mais, en attendant, il faut que j'agisse. Ce sera toujours du temps gagné si je suis déjà à Londres quand vous recevrez sa lettre. Et moi ? Comme je vous le disais, il faut que vous alliez à Paris afin de la couvrir de votre présence. Au cas où mes recherches ne seraient pas longues, nous arriverions quelques heures plus tard auprès de vous. Je partirai demain et ramènerai ici cet enfant. Mais, ajouta-t-elle avec une inquiétude qui ne manquait pas de comique, « Quel voyage ! Il y a 40 ans que je n'ai quitté mon pays !»« Vous descendrez dans l'hôtel dont voici l'adresse, » dit-il en écrivant rapidement sur une feuille de son carnet. « J'y suis très connu et vous serez bien à tous les points de vue. Voici également mon adresse à Londres. Adieu, il faut que je parte. » « Mais non, déjeunez avec moi. Il ne vous faut qu'une demi-heure au bon trot pour atteindre la station. » « J'ai peur de manquer le convoi. Je déjeunerai dans le wagon-restaurant. Si on peut me conduire en 25 minutes d'une gare à l'autre, je brûle Paris et pars ce soir à 9 heures pour Londres. J'y serai ainsi demain matin à 5h40. » Une heure après, enfoncé dans le coin d'un compartiment, il s'abandonnait à l'inquiétude et au chagrin. Et cependant, pensait-il, je n'ai aucun doute. Elle est sortie indemne de cette affreuse épreuve, mais sa réputation... Quant à lui, si je le trouve... Il ferma son poing robuste par un mouvement instinctif et s'efforça de recouvrer du calme. Son train ayant du retard, il ne put partir le soir même pour Londres. Il passa la nuit dans un hôtel voisin de la gare du Nord et, la fatigue l'emportant sur toutes ses préoccupations, il dormit d'un sommeil réparateur. Il partit le matin suivant avec l'espoir assez irraisonné de réussir très vite dans ses démarches. Tantôt il se disait que Brigitte, dans son abandon, penserait au consulat français. Tantôt il réfléchissait que, complètement inexpérimentée, elle ne connaissait même pas l'existence d'un consulat à Londres. Il débarqua à Folkestone avec un immense soupir de soulagement et 2 heures plus tard entra en gare de Londres en disant tout haut « Enfin !»